Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9R3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Le cerveau de l'enfant expliqué aux parents est un guide de parentalité fondé sur la vulgarisation de notions issues de la neuropsychologie et du développement de l'enfant. Alvaro Bilbao, neuropsychologue et père de 3 enfants, y examine surtout les premières années de vie. Une période durant laquelle les expériences quotidiennes participent fortement à la construction des compétences émotionnelles, relationnelles et intellectuelles. Le livre ne propose pas de transformer les enfants en petits prodiges. Il cherche plutôt à aider les adultes à ajuster leurs attentes et leurs pratiques à un cerveau encore en maturation. Son propos relie des situations ordinaires, comme les colères, les peurs, les oppositions ou les difficultés à respecter une consigne, à des mécanismes de développement accessibles aux lecteurs non spécialistes. La démarche associe explications générales et conseils pratiques concernant le lien affectif, les limites, les routines, le jeu, le mouvement et la gestion des émotions. Il vise principalement les parents de jeunes enfants, mais fournit aussi un cadre utile aux éducateurs qui souhaitent comprendre les comportements avant de chercher à les corriger. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, les 6 premières années comme période de développement sans culte de la performance. Le livre accorde une place centrale aux premières années, durant lesquelles le cerveau de l'enfant manifeste une grande plasticité. Cette idée ne sert pas à justifier une course à la stimulation précoce. Alvaro Bilbao insiste au contraire sur le risque de confondre potentiel cérébral et obligation de rendement. Un enfant ne tire pas nécessairement bénéfice d'une accumulation d'activités, d'exercices ou d'informations. La qualité des interactions, le sentiment de sécurité, le repos. Le jeu et le respect du rythme individuel constituent des conditions plus cohérentes avec le développement global que la recherche de performances rapides. Cette nuance est importante dans un contexte où les parents peuvent se sentir responsables de chaque acquisition. Le livre déplace la question de comment rendre l'enfant plus intelligent vers celle de comment lui offrir un environnement qui favorise curiosité, autonomie et stabilité émotionnelle. Les compétences intellectuelles ne sont donc pas traitées isolément. Elles dépendent aussi de la disponibilité affective, de la possibilité d'explorer sans pression excessive et de l'expérience répétée de situations adaptées à l'âge. Cette perspective aide à relativiser certains retards apparents ou certaines oppositions. Elle invite l'adulte à accompagner un processus de maturation plutôt qu'à exiger du jeune enfant des capacités de contrôle, de raisonnement ou de régulation comparables à celles d'un adulte. Deuxièmement, comprendre les comportements difficiles à partir d'un cerveau encore immature. Un apport majeur du livre consiste à interpréter les conduites qui épuisent les adultes sans les réduire à de la mauvaise volonté. Refuser un vêtement, pleurer longtemps. Se mettre en colère ou sembler incapable d'écouter une instruction peut refléter une surcharge émotionnelle, une frustration ou des capacités de contrôle encore limitées. Cette lecture ne signifie pas que toutes les conduites doivent être acceptées. Elle permet plutôt de choisir une réponse proportionnée et utile, au lieu de transformer chaque conflit en épreuve d'autorité. Bilbao présente le fonctionnement cérébral de manière simplifiée afin de montrer que les systèmes liés aux réactions instinctives et émotionnelles prennent souvent le dessus avant. Que les capacités de réflexion et d'autocontrôle ne soient suffisamment disponibles. Dans une crise, exiger immédiatement une explication rationnelle ou une obéissance parfaite est donc fréquemment inefficace. Le parent peut d'abord aider l'enfant à retrouver un état plus calme, puis rappeler la règle ou chercher une solution. Cette séquence préserve à la fois le cadre et la relation. La conséquence pratique est une modification du regard parental. L'adulte ne renonce pas aux limites, mais évite d'attribuer une identité négative à l'enfant. Un comportement problématique devient un fait à accompagner et à corriger, non la preuve que l'enfant serait capricieux, paresseux ou désobéissant par nature. Cette distinction protège le développement de l'estime de soi et favorise des interactions moins conflictuelles. Troisièmement, attachement. Attention et routine comme fondation de la sécurité intérieure, le livre défend que l'affection et l'attention ne sont pas des ajouts secondaires à l'éducation. Elles créent une base à partir de laquelle l'enfant peut apprendre, explorer et progressivement se séparer sans se sentir menacé. Bilbao relie le développement émotionnel à la qualité de la présence adulte. Il ne s'agit pas d'une disponibilité parfaite ni d'une suppression de toute frustration, mais d'une relation suffisamment fiable pour que l'enfant puisse demander du réconfort, être entendu et retrouver un sentiment de sécurité. Les routines familiales prolongent cette fonction. Les moments réguliers de repas, de sommeil, de préparation ou de séparation offrent des repères prévisibles. Pour un jeune enfant, la prévisibilité réduit une part de l'incertitude et facilite les transitions qui peuvent sinon déclencher opposition ou anxiété. Les routines ne sont donc pas seulement un outil d'organisation domestique. Elles soutiennent la compréhension du temps, la coopération et la construction de l'autonomie. Cette approche évite 2 erreurs symétriques. D'une part, elle ne présente pas la tendresse comme une permission sans limite. D'autre part, elle ne considère pas que la fermeté exige une distance affective. Une règle claire peut être posée avec calme, tout en reconnaissant la déception ou la colère qu'elle provoque. Le livre valorise ainsi une autorité relationnelle. L'adulte conserve sa responsabilité de guider, mais cherche à rendre les règles compréhensibles et les interactions sécurisantes. Le lien devient alors une condition de l'apprentissage des limites, non son contraire. Quatrièmement, remplacer la punition par des limites, des conséquences et la réparation. Álvaro Bilbao critique la punition lorsqu'elle humilie, isole ou inscrit durablement une image négative de l'enfant. Son argument principal concerne le concept de soi des messages répétés qui définissent l'enfant comme mauvais. Égoïste ou incapable peuvent être intériorisés et influencer sa manière de se percevoir. La punition peut aussi capter toute l'attention sans apprendre clairement la conduite attendue. L'enfant se concentre alors sur la peur, la honte ou le rapport de force davantage que sur la compréhension du tort causé. Le livre ne plaide pas pour l'absence de règles. Il propose de distinguer le besoin de poser une limite du choix d'une sanction punitive. L'adulte peut accepter un comportement, expliquer simplement la règle, maintenir une conséquence liée à la situation et inviter l'enfant à réparer lorsque cela est possible. Une réparation peut concerner un objet abîmé, une personne blessée ou un désordre créé. Elle donne à l'enfant une voie concrète pour reprendre une place constructive après une erreur. Cette orientation demande davantage de cohérence que de sévérité spectaculaire. Elle suppose que le parent formule des attentes réalistes pour l'âge, prévoit des conditions favorables et évite de nourrir les affrontements par une attention exclusivement négative. Elle reconnaît aussi que certains comportements recherchent du contact ou expriment un besoin mal formulé. La discipline devient ainsi un apprentissage progressif de la responsabilité, plutôt qu'un dispositif visant à obtenir une soumission immédiate par l'inconfort. En dernier lieu, émotion, mouvement et répétition dans l'apprentissage de la confiance. Le livre accorde une fonction éducative aux émotions et ne recommande pas de les faire disparaître au plus vite. Face à la peur ou à l'angoisse, la première étape consiste à reconnaître ce que l'enfant ressent. Nommer la peur, écouter et rester présent peuvent réduire l'intensité de la réaction et rendre ensuite possible une réponse plus réfléchie. Nier ou ridiculiser l'émotion risque au contraire d'isoler l'enfant et de renforcer son état d'alerte. Le parent peut accompagner sans forcer, en proposant une progression adaptée et en laissant à l'enfant une part active dans le pas suivant. La répétition joue un rôle essentiel dans cette logique. Revenir plus tard à une activité ou à une situation redoutée dans des conditions plus supportables permet de construire graduellement de la confiance. Cette idée rejoint la plasticité cérébrale, les expériences récurrentes participent à consolider des façons de réagir, des compétences et des attentes. Le livre invite donc les adultes à privilégier des pratiques quotidiennes cohérentes plutôt que des interventions exceptionnelles. Enfin, l'activité physique est présentée comme un soutien du bon fonctionnement cérébral. Bouger, jouer dehors et pratiquer un exercice adapté ne relève pas uniquement de la santé corporelle. Ces activités contribuent aussi à la réduction du stress et à un contexte favorable à l'attention et à la mémoire. Le livre relie ainsi le développement émotionnel et cognitif à des habitudes très concrètes: écouter, jouer, respirer, bouger et répéter sans précipiter l'enfant. En conclusion, le cerveau de l'enfant expliqué aux parents conviendra en priorité aux parents d'enfants jeunes qui recherchent un cadre clair pour interpréter les crises, les oppositions, les peurs et les apprentissages quotidiens. Il peut également intéresser les grands-parents, les professionnels de la petite enfance et les enseignants qui souhaitent relier leurs pratiques à des repères de développement. Son bénéfice principal est moins de fournir une recette universelle que de modifier la question posée face à une difficulté. Au lieu de demander seulement comment faire obéir l'enfant, le lecteur est conduit à se demander ce que son comportement exprime. Quelles capacités sont réellement disponibles à son âge et quelle réponse peut à la fois protéger la relation et maintenir une limite. Le livre se distingue parmi les ouvrages de parentalité par son effort de traduction de la neuropsychologie vers des scènes familiales ordinaires. Il ne reste pas au niveau de principes généraux sur la bienveillance, ni au niveau d'un exposé scientifique technique. Il met en relation le développement cérébral avec des choix concrets, organiser des routines, offrir de l'attention, éviter les étiquettes dévalorisantes, encourager le mouvement, verbaliser les émotions et favoriser la réparation plutôt que la punition. Cette position exige toutefois une lecture mesurée. Les explications sur le cerveau ne remplacent ni l'observation de chaque enfant, ni une aide professionnelle lorsque les difficultés sont importantes. Comme guide de réflexion et de pratique, l'ouvrage apporte surtout un langage accessible pour exercer une autorité plus calme, plus cohérente et mieux ajustée à la maturation de l'enfant. Si vous souhaitez soutenir Álvaro Bilbao, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.